Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode consacré à la chartreuse Terminorum. Nous retrouvons tout de suite Simon Lancelevé.
Finalement, on voit à quel point ces défis ils transforment aussi les individus, mais que ça reste des individus qui, à côté, restent aussi des individus, entre guillemets, je dirais, ordinaires, qui bossent à côté, qui ne sont pas des athlètes élites pour beaucoup et qui finalement font ça avant tout par passion, en fait. Et Aurélien, il incarne cette passion pour moi. Et quand Justin, tu parles de lui, tu vois, c'est l'image qui me revient. D'ailleurs, il y avait des larmes aux yeux dans beaucoup de gens quand j'ai entendu, son petit discours pour où il a abandonné. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable de se dire qu'il a réussi à venir à bout d'un mythe et que derrière, se remettre dans l'effort avec toute cette humilité qui caractérise, moi, ça m'avait vraiment bluffé. Je pense que c'est aussi une marque de fabrique des coureurs de la Terminorum, comme on voit cette année Sébastien Lachon qui est revenu sur la Terminorum, même s'il a terminé. Toujours se remettre, on va dire, revenir face aux doutes, revenir aussi face à un défi en disant qu'on vient avec la force du jour et on verra bien ce qui se passe. Je trouve que c'est assez incroyable.
Alors, Sébastien Lachon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un avec qui... Aurélien Sanchez a fait la Swiss Peak 660, je crois. Donc, c'est une course gigantesque. Et Sébastien Rachon, cette année, sur la Chartreuse Terminorum, a fait ce qu'on appelle une fun run. Donc, c'est trois boucles.
Trois tours, ouais.
Est-ce que toi, tu pourrais peut-être, pour les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment la Barclay et tout ce qui s'ensuit, bon, nous, on connaît tous les deux, mais est-ce que tu peux expliquer rapidement les règles? Pour un auditeur qui se dit, attends, il parle d'un truc, là, c'est la Terminorum et la Barclay, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, 300 km, 25 000 mètres de dénivelé à faire en 80 heures, mais il y a aussi quelques règles, parce que c'est un peu de la course d'orientation. Tu peux expliquer un peu comment ça marche?
Ouais, alors, je me concentrerai sur la Terminorum parce que je n'ai pas couru la Barclay, et c'est un peu plus simple, je pense, même si elles sont liées. Ce n'est pas forcément l'orientation, c'est-à-dire c'est de la navigation, parce que. Si on parle de la Terminorum, le parcours est inconnu. Il est dévoilé que la veille et il n'est pas balisé, ce parcours. Ça, c'est une première chose. Donc, on a une boucle que les concurrents sont obligés de recopier sur une carte IGN la veille, à main levée, et sur cette boucle, qui fait à peu près 60 km, donc à tracer parmi les courbes de niveau, il y a des livres à trouver qui vont servir un petit peu de marqueur, ces livres, parce que cette course, on n'est pas certain que les individus vont passer aux bons endroits. Donc, pour être sûr qu'ils ont fait la bonne distance et le bon tracé, on va leur demander de trouver ces livres et d'en arracher des pages qui correspondent à leur numéro de dossard. Donc, ça, c'est la même chose que sur la Barclay. Mais finalement, c'est une règle qui vient un petit peu corser l'affaire parce que trouver des livres dans la nature, ce n'est pas forcément facile. Et le roadbook peut être un peu alambiqué. Donc, il faut être aussi capable de courir, de lire et de naviguer en même temps. J'ai dit que ce n'était pas une course d'orientation parce qu'une course d'orientation, finalement, vous avez un point où vous devez aller d'un point à un autre en faisant le tracé qui vous paraît le plus direct pour perdre le moins de temps possible. Or là, puisqu'on a des livres à trouver, etc., on est sur une navigation, il y a vraiment un itinéraire à suivre. Et de toute façon, le territoire ne permettrait pas forcément de couper à travers cet itinéraire parce qu'il y a des barres rocheuses, il y a des cours d'eau, etc. Donc, c'est vraiment une volonté de l'organisation de suivre cet itinéraire. Ce qui fait la particularité de cette Terminorum, c'est aussi des barrières horaires. C'est-à-dire que le concurrent a 16 heures par tour pour boucler et repartir sur la boucle suivante. S'il arrive avec un bout de 16 heures et une seconde, il ne peut pas repartir. Cette année, concrètement, on a eu un concurrent, un postulant, qui n'a pas pu prendre un deuxième départ, s'est lancé sur un deuxième boucle parce qu'il arrivait avec 2 minutes de retard. Donc, on a aussi des règles qui sont assez drastiques par rapport à tout ça. Une fois que le concurrent a bouclé cette première boucle, il doit donc présenter les preuves de son passage, donc les pages qui sont décomptées. Les pages, il faut vraiment les conserver minutieusement. Il y a des concurrents qui, parfois, en ont perdu sur lors de la boucle. Et là, ça peut être vite une source de stress et de catastrophe. Et si tout est OK, et qu'il a un petit peu de temps pour se ravitailler, il peut le faire au camp. Mais c'est l'unique moment de la course où il peut demander une assistance. Dès qu'il repart sur la seconde boucle, il est à nouveau livré à lui-même, il n'a pas le droit au téléphone portable, pas le droit au monde GPS. C'est vraiment une course en totale autonomie. Et de la même façon, si le concurrent décide d'abandonner parce qu'il est perdu, blessé, exténué, il n'a pas le droit de revenir au camp, on va dire, avec une aide extérieure. Il doit vraiment revenir par ses propres moyens. Donc l'autonomie, c'est vraiment aussi une exigence et c'est vraiment ce qui fait la particularité de cette épreuve aujourd'hui. Et le fait de partir dans un sens puis dans l'autre, on imagine bien que là encore, tous les repères vont être un petit peu modifiés. Il faut dire aussi qu'en 16 heures, de 16 à 32 heures, on passe forcément une partie de nuit. Ça, plus le double sens de navigation, plus les changements de lumière font que finalement, il y a toujours un inconfort, entre guillemets, ou en tout cas un travail intellectuel à avoir, de se dire, est-ce que je suis au bon endroit ? Et le cerveau doit tout le temps être amené un petit peu à faire des images mentales pour être certain que oui, le coureur est ou pas au bon endroit.
Ok, donc des règles qui sont très particulières. On est loin de l'ultra-trail classique où on suit un parcours avec des petits fanions tous les 300, 400 mètres, avec des ravitaillements tous les 10 km et la famille qui peut venir nous réconforter. Donc là, on est sur complètement autre chose. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai lu l'introduction de ton livre avec les quelques mots un peu de Benoît Laval et ce qu'il en disait, Terminorum, ça veut dire en latin, c'est la borne, la limite humaine. Et il y a un moment, il y a un passage, la phrase, c'est « Personne n'aime la douleur en elle-même, personne ne la recherche ni ne la souhaite, tout simplement parce qu'il s'agit de la douleur. » Et donc, quand on lit ça dans l'introduction d'un livre, on se dit « Ouh là là, mais c'est dur !» Donc, j'en arrive à ma question. Toi, tu as observé les coureurs, mais en plus, là où tu es plus fou, c'est que tu as voulu la faire, cette course. Donc, toi, tu as décidé non plus d'observer, mais de participer à la course. Pourquoi tu as voulu passer d'observateur à cobaye de ton propre supplice ?
Alors, je réponds à la question, mais je rebondis juste avant sur la phrase que tu as citée, qui est une citation de Cicéron. Hein, mais je trouve que c'est important d'y revenir parce que finalement, si on la prend au premier abord, on se dit, mais c'est des sadomaso, en fait, c'est coureur. Et en effet, c'est ce que beaucoup de personnes pensent en lisant. Et d'ailleurs, quand j'ai eu les commentaires sur les différents articles après la dernière édition, je me suis dit, l'idée reçue est encore bien présente. Mais en fait, cette phrase de Cicéron, c'est la même qu'on retrouve sur ce qu'on appelle le lorem ipsum. C'est quand, parfois, on ne sait pas quoi mettre comme texte, notamment en mise en page, en presse, etc. Il y a du faux texte qui va être généré automatiquement. Et c'est ce texte, en fait, de Cicéron qui est automatiquement collé. Et finalement, on le retrouve assez souvent en mise en page. Et peut-être ça parlera à certains auditeurs qui sont graphistes ou qui travaillent dans la presse, ou peu importe. Mais ce que je veux reparler, c'est que le triumvirat, c'est beaucoup amené en fait avec cette phrase et qu'on retrouve là bien sûr l'idée de dépassement de limite, mais c'est aussi tout l'humour de la course parce que finalement ils ont pris la phrase, peut-être les phrases latines les plus communes au monde, ils s'en sont amusés en fait en les détournant et ils ont même pas fait forcément beaucoup de recherches. Ça c'est un petit peu ce côté hyper humoristique, presque pour certains sous forme de cynisme. Alors après ça conviendra dans le jeu, mais plutôt je dirais de l'ordre de la satire en fait. Et on voit que derrière, en fait, il y a toujours un double jeu dans cette course. Bien sûr, il y a un dépassement de limite, mais il y a aussi toute cette construction. Bon, on s'est amusé, on a mis le lorem ipsum, parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde met quand il ne sait pas quoi mettre. Et donc, il y a aussi ce côté-là. Après, pour juste répondre, du coup, pour revenir à cette question et fermer cette parenthèse, moi, ce qui m'a. En fait, pourquoi j'ai participé à la course, c'est finalement parce que je n'avais pas trop le choix, je dirais. Tout simplement parce que je suis assez pragmatique. C'est-à-dire que quand on veut faire une investigation sur une course qui est pseudo-secrète, dont le parcours est secret, l'horaire est secret, ben forcément, il y a plein de non-dits et il y a plein de choses qu'on ne peut pas expérimenter soi-même. C'est-à-dire que j'avais beau courir avec les postulants chaque semaine, j'avais beau les interroger, donc recueillir des données. Il y avait plein de choses auxquelles je ne pouvais pas accéder. C'est tout simple, mais par exemple, à quoi ça ressemble vraiment un sentier sur la Terminorum ? Est-ce que c'est vraiment du hors-piste ? Est-ce que c'est du technique, etc. Ça, concrètement, les coureurs ne pouvaient pas me dire, bah, viens, on va y aller ensemble, parce qu'ils n'ont pas le droit d'amener des gens sur les sentiers. En fait, ça fait partie des règles aussi à respecter. Et donc, moi, j'avais plein de choses qui ne m'étaient pas accessibles. Et en échangeant avec eux, ils m'ont dit un jour, mais tu devrais candidater, en fait, parce que c'est que, y a que comme ça que tu pourras vraiment répondre à tes questions, de tes interrogations et aller au bout de ta démarche de recherche. Et donc, c'est ce qui m'a amené à candidater. Alors, la première fois, je n'ai pas eu de passe-droit. Le triumvirat m'a mis sur liste d'attente durant 2 ans quand même. Mais une fois que j'ai été sélectionné, j'ai pu vraiment mesurer en fait toute la difficulté de la course, à savoir quand, je pense que tout coureur s'y retrouvera, mais quand on prépare un objectif, on a toujours une forme de stress à la veille du départ ou juste avant sur la ligne d'arrivée, parce qu'on se dit, comment ça va se passer? Et sur la Terminium, en fait, la question que le marathonien peut se dire, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir les bonnes jambes aujourd'hui? Sur la Terminium, les questions sont bien plus nombreuses, parce qu'on ne sait pas, tiens, à quelle heure ça va partir? Ça, sur une autre course, on le sait. Là, à Terminium, c'est entre minuit et midi. Cette année, ils sont partis à minuit 4. Ils ont fait une nuit blanche. Tout est vite remis en jeu. Et en fait, de participer à la course, moi, ça m'a permis de comprendre ça et surtout de le vivre et de se dire, mais là, avant de courir, en fait, je suis déjà exténué parce que j'ai dû recopier la carte, j'ai dû lire le roadbook et me rendre compte que ça allait être vraiment une épreuve d'une grande intensité. C'est ce qui est intéressant, en fait, je pense aussi dans cette démarche, d'avoir pu, derrière, accéder aussi à des éléments de langage et mieux comprendre encore ce que les coureurs pouvaient être amenés à me dire par la suite, d'une manière, puisqu'après, ils étaient amenés à me parler encore plus librement, puisque j'étais moi-même devenu un des leurs, entre guillemets.
Tu étais rentré dans la tribu.
Exactement, de toute façon, je payais mes 3 euros, j'ai donné ma carte d'immatriculation et je suis devenu aujourd'hui, je suis encore un vétéran de la Chartreuse Terminium et je le serai aujourd'hui à vie, de toute façon. Hein. C'est ça le statut.
Alors, toi, tu y as participé, lesquelles années tu as fait, toi, les deux fois, c'était en quelle année?
Alors, la première année à laquelle j'ai participé, c'est 2022 et la deuxième à laquelle j'ai participé, c'est 2023, l'année des premiers finisseurs, on va dire.
Ok. Donc, depuis que la course a été créée, combien il y a eu de finisseurs? Je crois qu'il n'y en a que 7, c'est ça? Un peu plus?
Alors, il n'y en a que 6. 6?
6.
Dans les 6, moi, j'en ai suivi vraiment 2 de manière très, très quotidienne. On va dire que dans les 9 que j'ai suivis, il y en a 2 qui étaient dans mes cobayes, entre guillemets, comme certains s'appellent eux-mêmes. Mais après, c'est tellement une communauté qui est à taille humaine et soudée que tous les concurrents, finalement, j'ai été amené à échanger avec eux dernièrement un petit peu avec Sébastien Réchon aussi, avec François Devaux. Enfin, bref, tous les finisseurs sont assez connus et se connaissent entre eux. C'est vrai que c'est la seule course aussi où tous les coureurs, finalement, sont amenés à se rencontrer. Tous les coureurs connaissent l'organisation et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment souvent en train, on a ça. En fait, cette notion de solidarité, de convivialité au centre de la discipline et de la pratique. Concrètement, c'est sans doute le cas. Moi, je n'ai pas fait d'études sur d'autres courses, mais dans la Chartreuse Terminium, ce n'est vraiment pas des mots à prendre à la légère. C'est une communauté qui vit pendant la course, au-delà, et qui est très, très, très soudée.
Alors toi, sur tes 2 expériences, tu as pu faire combien de boucles?
Alors, c'est là où ça paraîtra peut-être ridicule. Je vais le dire en kilomètres, après je vais le dire en boucle. La première année, j'ai fait 60 kilomètres seulement. Et la deuxième année, j'en ai fait entre 90 et 100, ce qui fait la première année une boucle, la deuxième année une boucle et demie. La première année, la difficulté, elle était de... Moi, j'allais vraiment pour récolter les données. Il faut bien garder ça en tête. Je m'entraînais de manière complètement, je dirais, débile presque, parce que j'ai commencé à m'entraîner le lundi avec un athlète. Donc à faire ce que lui avait prévu de faire, le mardi avec un autre, donc à faire ce que lui avait prévu de faire. Et en fait, je regardais, mais c'est une semaine d'entraînement, hein, ça faisait du volume, mais ça ressemblait à rien, quoi. Je veux dire, en termes de cycle, de récupération, de progression, ça ne servait pas. Enfin, bon, c'est vraiment faire de récolter des données, être devenir l'ombre des coureurs. Donc sur ça, c'était bon, mais on va dire d'un point de vue athlétique, c'est complètement désastreux ce que j'étais amené à faire, je pense. Et donc, sur la course, mon objectif, c'était de passer le plus de temps possible avec les coureurs que je suivais au quotidien, sachant qu'ils ont des niveaux très différents. Que je suis parti avec le coureur le plus rapide en me disant, ben, je vais me laisser décrocher après le premier livre, etc. Et jusqu'à ce que finalement, j'arrive avec mon dernier coureur en capacité de finir un tour dans les délais. Et cela, en fait, ça rend un peu plus complexe encore, on va dire, le jeu, parce que votre cerveau, vous devez réfléchir à, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'enregistrer? Vous n'avez plus le droit d'enregistrer avec un téléphone, une caméra, etc. Donc, vous devez tout garder en tête. Et en plus, vous devez naviguer, trouver le roadbook, etc. Puis, il y a l'effort physique qui est quand même un effort d'ultra-endurance. La deuxième année, j'y suis allé avec un peu plus d'ambition, disons que j'essaierai au moins de repartir sur une deuxième boucle.
Donc, tu t'es entraîné avec deux coureurs qui sont des finishers. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, comme émotion avec ces coureurs-là? Et est-ce que quand ils ont gagné, entre guillemets, ou atteint leur ultime limite, donc ils ont été finishers de la Chartreuse Terminorum, c'est quoi les émotions que toi, tu as eues avec eux? Tu as eu l'impression de gagner avec eux?
Alors, c'est les deux coureurs que j'ai suivis, on peut les nommer, de toute façon, ils font partie de l'histoire du livre, ils sont assez connus dans le milieu, c'est Mickaël Berton et Benoît Bachelet, donc deux coureurs qui sont aussi assez différents, je dirais, tout à l'heure on parlait des styles, qui ont des styles assez différents et qui ont aussi des objectifs un petit peu différents quand je les rencontre en 2019 et 2020, sauf que Mickaël est quelqu'un qui n'aime pas courir en fait à la base, qui est un ancien militaire et qui, en revenant un peu de l'armée, se met un jour à faire une randonnée et à voir quelqu'un faire du trail. Alors lui, je pense qu'il l'appelait même pas ça comme ça à l'époque. Il se dit, tiens, je vais essayer de faire comme lui. Et il trouve ça assez marrant, en fait. Et de fil en aiguille, il se retrouve à participer à la Terminorum. Et il se dit, après sa première participation, mais cette course, elle est vraiment incroyable et c'est la course de ma vie, en fait. Et mon objectif, à partir de maintenant, c'est de la terminer. Et donc, Mickaël, c'est vraiment le jusqu'au boutiste. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a donné un petit peu le style jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il décide, pour terminer, de changer radicalement de vie, d'arrêter de travailler, de vivre en camping-car pour aller au bout de son aventure et d'être un finisseur de cette course. Moi, quand je le rencontre, à ce moment-là, il a fait au maximum deux tours. Et entre 120 km et 300, il y a quand même une sacrée marge, on va dire. Et donc, ça, j'ai écouté, j'étais assez impressionné, mais ça me paraissait être assez ambitieux, voire complètement impossible, en fait, à ce moment-là, quand il m'explique ça. Le deuxième, c'est Benoît Bachelet, qui est un ancien enquêteur, qui est magistrat aussi, un enquêteur professionnel, hein, qui a joué à Grenoble, qui était capitaine de Grenoble et de l'équipe de France d'hockey, qui a fait les Jeux Olympiques, donc un sportif de haut niveau, mais dans une autre discipline ou qui demande plutôt de la puissance et qui se met un peu à faire de la course à pied au départ pour s'entretenir et qui, de fil en aiguille, parce qu'il aime le massif de la Chartreuse, c'est quand même quelque chose de très important, mais qui est vraiment passionné par ce massif et qu'il adore ce massif, se met à faire cette Chartreuse Terminorum avec pour objectif de continuer à postuler jusqu'à... tant qu'il est amené à progresser. Donc, c'est-à-dire que la première année, il fait un tour. OK, très bien. Deuxième année, il revient deux tours. Et troisième participation, trois tours, donc il continue. Toujours en se disant que cette course, les cinq tours, c'était impossible. Encore quelques semaines avant, on est parti, on va dire, en stage en Chartreuse une semaine, il disait, mais cinq tours, c'est vraiment très lointain, c'est impossible pour quelqu'un comme lui. Donc on a deux personnalités assez différentes, l'un qui a fait vraiment cette course objectif de vie, et l'autre, finalement, qui croit sans y croire, en fait. Et quand ils sont amenés à terminer la Chartreuse Terminorum, concrètement, moi, ce que je revois, c'est toutes les étapes, en fait, qui ont jalonné leur parcours, tous les, entre guillemets, les petits sacrifices, toutes les fois où aussi, quand Mickaël expliquait qu'il voulait terminer, où on ne le croyait pas, où on avait du mal à le croire, comme je l'expliquais même moi. Et quand je le vois, justement, boucler la course de sa vie, forcément, il y a énormément d'émotions, parce que on revoit tout ce qui a été fait avant. Et de la même façon, Benoît, c'est notre émotion. Benoît, c'est plus halluciné. Je pense qu'encore aujourd'hui, il se demande comment il a réussi à faire cette course. Et on a l'impression de vivre avec eux presque un rêve éveillé, en fait. Et moi, je ne me suis jamais considéré comme... je ne pense pas forcément qu'avoir vécu une victoire à travers eux, ce n'est pas forcément ça. Mais par contre, j'étais aux premières loges et ça n'a pas forcément de prix, je dirais. Oui.
Ouais, alors du coup, toi, tu as vécu un peu ces émotions avec eux. Toi, quand tu partages ces expériences-là avec ton métier d'ethnologue, comment tu arrives à prendre du recul un peu par rapport à ça? Parce que je sais que pendant ta thèse, notamment, tu as fait des questionnaires. Alors, est-ce qu'il y a des profils types de coureurs pour qui, où tu sais, lui, en fonction de son profil, je pense qu'il peut gagner. Mais là, de ce que tu viens de dire il y a quelques instants, il y en a à qui tu n'aurais pas misé dessus et il a gagné quand même. Est-ce que finalement, c'est quoi le profil type de quelqu'un qui pourrait finir la Barclay? Il y en a un, la Barclay ou la Terminorum, il y en a un ou il y en a un de profil? Il y en a un ou il n'y en a pas de profil type?
Si je regarde sur l'édition avec les 5 finisseurs. Concrètement, ils ont des profils assez différents. Honnêtement, il y a des coureurs qui... on va dire quand Sébastien Réchon s'aligne lors de en 2023, beaucoup pensent qu'il va aller loin, voire aller au bout. On ne dirait pas la même chose forcément de Nicolas Maroux ou de Benoît Bachelet, par exemple, ou même de Mick. En fait, c'est ce qui fait la magie de cette course, c'est que finalement, elle redistribue les cartes en fait, à chaque fois, et je pense que c'est la même chose sur la Barclay, c'est que c'est des profils un peu inattendus qui vont sortir. Aurélien, concrètement, il ne gagnera pas l'UTMB, je pense. Et de la même façon, quelqu'un qui gagne l'UTMB, je ne suis pas certain qu'il soit capable de faire ce qu'a fait Aurélien. D'ailleurs, on a vu que même Courtet, etc., se sont cassés les dents un peu sur la Barclay et d'autres avant elle. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ces courses-là, c'est que ça demande des compétences à part. C'est-à-dire que c'est un jeu complexe, multidimensionnel. C'est-à-dire que sur d'autres courses, on a juste besoin, entre guillemets, je dis juste, de gérer un pacing, de gérer un ravito, etc. Là, il faut être capable de gérer plein d'imprévus. Et finalement, le point commun, c'est ça, c'est des personnes qui sont capables de s'adapter très vite, donc qui ont aussi une grande expérience de leur montagne, d'eux-mêmes, de leur corps, de l'effort d'endurance, et qui ont aussi un mental à toute épreuve, parce que quand les plans sont amenés à changer, très vite, être capable de se remobiliser, ça demande des aptitudes mentales assez importantes. Ces coureurs, c'est aussi des aventuriers. Souvent, le trail, c'est de l'aventure. Quand on regarde aujourd'hui, la plupart des courses sont ultra balisées, on est sur des sentiers de randonnée. Là, on est sur du hors-piste, du hors-crasse. Donc, ça demande aussi des vraies qualités d'aventurier. Et ça demande des qualités qui ne sont pas forcément utilisées ou sollicitées ailleurs. Être capable de naviguer, être capable de passer 3-4 nuits sans dormir ou en dormant très peu, c'est des compétences en fait qu'on n'évalue pas sur d'autres disciplines ou alors peut-être en raid aventure, mais finalement c'est assez rare en trail running et même sur des formats très longs. Donc là, ça demande vraiment d'être très autonome, et d'être capable aussi finalement de jouer sur ses forces et en disant moi je ferai peut-être pas le meilleur coureur à pied, par contre je marche très bien, je marche très vite. Aurélien, c'est un très bon marcheur, il a fait des FKT, des records. Mick, c'est pareil, ils ont à peu près des profils similaires sur ça, ils se connaissent très bien, ils ont pas peur de prendre un sac lourd et de partir des jours. Donc ça, c'est aussi une expérience qu'on peut souligner. Et c'est vraiment, ouais, c'est des personnes en tout cas qui n'hésitent pas aussi à investir sur leurs points faibles. Mick avait des difficultés avec la gestion du sommeil, il a trouvé des postes pour travailler de nuit, courir entre deux, à se mettre à l'épreuve et surtout qui ont une grande inventivité. C'est-à-dire que leur méthode d'entraînement, concrètement, je pense que la méthode d'Aurélien, si c'était Benoît Bachelet qui l'avait suivi, ça lui aurait pas forcément correspondu, ça aurait pas été bon pour lui, il aurait peut-être pas réussi à tirer le maximum. Mais eux, ils arrivent à trouver justement la meilleure façon de s'entraîner par rapport à leurs contraintes, par rapport à leurs forces. Et donc, ils sont, on va dire, avant tout leur propre cobaye, entre guillemets. Et donc là, ça demande aussi finalement une créativité, une capacité d'analyse de ses propres échecs, de ses propres forces et une grande réflexivité.
Donc, il y a donc une forte adaptabilité. Toi, en tant que coureur, hein, tu as quand même fait 50 courses, hein, tu as quand même fait la CCC, l'échappée belle, l'UTMJ, les Templiers, le Ventoux. Donc, tu as quand même une belle expérience de coureur. Finalement, toi qui vois les deux mondes, le monde, on va dire, de la Barclay, la Terminorum, et le monde du trail classique, est-ce qu'il y a des ponts qui peuvent se faire ou c'est une autre planète entre ces deux mondes-là? Toi, si tu devais pencher dans un monde, tu irais vers lequel?
Alors moi, c'est une question qui est un peu difficile parce que si on réfléchit aujourd'hui, à la base, moi, on me dit mais la Terminorum, c'est pas du trail en fait parce que c'est un ovni, on sait pas trop, c'est de la marche, etc. Mais c'est finalement les questions, on peut les poser la même chose sur l'échappée belle. Est-ce que c'est du trek? Est-ce que c'est du trail sur la Saint-Élion? Est-ce que c'est du trail aussi? Finalement, on retrouve un peu les mêmes questions pour beaucoup de courses. Mais c'est vrai que c'est des courses à part. Mais quand on regarde qui s'intéresse, ben aujourd'hui, concrètement, c'est des médias qui parlent de trail souvent, de course à pied. Si on regarde aussi le profil des coureurs, c'est beaucoup des trailers qui, dans l'année, prennent des dossards aussi en trail. Donc, il y a des passerelles qui existent, ça c'est certain. Benoît Laval, qui est le créateur, a été membre de l'équipe de France de trail aussi. Donc, il y a des passerelles, en fait, qui sont évidentes. Après, là où ces deux mondes, sans en être vraiment, c'est quand finalement Il y a des systèmes qui vont être complètement différents en termes d'organisation, des systèmes qui seront plus ou moins marchands. Sur la Terre Énorme, on est sur 3 euros. Concrètement, l'organisation, elle ne va pas spéculer sur votre participation, quoi. Vous êtes, c'est, et ça participe aussi d'un état d'esprit, en fait, derrière, parce qu'on sait que forcément, c'est un camp, on va dire, et ça un petit peu à la bonne franquette. Et ça renvoie un peu à l'idée de communauté, en fait, à l'idée d'un petit monde en soi. Et que parfois, on peut entendre de ce discours de dire ben, ce trail-là, il ressemble peut-être un peu plus au trail des origines, entre guillemets, le trail avant les systèmes de tirage au sort, avant le fait que pour prendre un dossard, il faut être le premier à se connecter à telle heure, sinon c'est foutu. Et donc, on retrouve un petit peu ça parfois dans le discours de revenir au trail d'avant, entre guillemets. C'est presque un anachronisme, en fait, sur certains aspects, ces courses. Mais pour autant, j'aurais des difficultés à les. À opposer, en fait, et je pense que c'est pas l'objectif d'ailleurs des organisations ni des coureurs, en fait. C'est l'objectif, c'est de dire ben tiens, il y a cette forme là qui existe, c'est un format différent qui a d'autres valeurs, qui repose aussi sur d'autres logiques, d'autres capacités, et tout ça fait partie du trail, de la même façon que pour gagner un KV, il faut pas forcément avoir les mêmes entraînements, les mêmes aptitudes que pour gagner un UTMB. Tout ça fait aujourd'hui partie du trail, c'est une discipline, on va dire, à part du trail, et on peut se poser la question sur beaucoup d'épreuves, comme je l'ai dit aussi avant.
Ok, super. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, donc, ton livre s'appelle La Quête, dans les coulisses de la Chartreuse Terminorum. Il est aux éditions Bouec Supérieur, donc BS, c'est ça ?
Bouec Supérieur, ouais, DBS, ils disent, c'est un belge.
Bouec Supérieur, il est disponible, je pense, sur les plateformes qu'on connaît bien et dans les librairies peut-être spécialisées.
Exactement, il est disponible normalement partout et aussi et surtout chez les libraires indépendants. Donc, n'hésitez pas à y aller aussi pour les soutenir dans leur aventure.
Ok. Alors, dernière question. Donc, j'ai des phrases qui m'ont inspiré quand j'ai lu qu'il y avait transformé l'impossible en possible. Et puis, il y a le film de la Barclay d'Alexandre Gilles, c'est Là où les rêves se perdent. Toi, si tu devais conclure un peu ces 4 ans de recherche, ta thèse, l'écriture de ce bouquin sur cette Chartreuse Terminorum, est-ce que ça t'inspire tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu ?
Moi, ce qui m'a fait enquêter sur cette épreuve, c'est qu'à la base, on ne savait pas si c'était possible, en fait, de la terminer. C'était une question que beaucoup se posaient. Et parfois, on voyait ça de manière un petit peu... On pensait que c'était... presque une bêtise, en fait, que de s'inscrire à cette course, parce que est-ce que c'est finissable ou pas, bref. Et cette question, en fait, de l'impossible, je pense qu'elle tout le monde se la pose à un moment donné, en fait. Que ce soit sur cette course, lorsqu'on décide de faire un premier marathon, lorsqu'on fait un premier trail, et que finalement, la réponse qu'ont apporté les coureurs, c'est que ben, on ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas forcément, mais il faut, si ça nous tient vraiment à cœur, il faut se donner à fond, en fait, pour ça. Et il ne faut pas hésiter à mettre en avant, mettre en place des dispositifs, se donner les moyens un petit peu pour tout ça. Et peu importe si ça échoue, il y a forcément d'autres choses qui vont nous faire vibrer avant de terminer, Mickaël, Benoît, etc. On participe à cette course et ils n'ont pas eu peur de se confronter à l'échec et ça leur a appris des choses, en fait. Et il y a un apprentissage, en fait, dans cette course, dans la course en général, qui est hyper important. Et on ne sait pas forcément ce que ça va nous apprendre, en fait. C'est toujours une recherche. Et c'est justement cette surprise, en fait, ce fait de ne pas savoir ce qu'on va trouver, qui permet aux individus, finalement, de vibrer. Parce que si à l'avance, on vous dit, tiens, dans cette course, il va se passer ça, ben, globalement, pourquoi faire cette course si vous savez déjà ce que vous allez avoir, ce qui fait que les gens ont aujourd'hui envie de mettre des dossards ou pas, ou juste chausser les baskets, c'est parce que on ne sait jamais comment ça va se passer et que dans une société qui est quand même parfois assez codifiée, où on a beaucoup de métriques, hein, on n'a pas parlé avec le travail, etc., des montres, on a beaucoup de chiffres, en fait, on peut mixer beaucoup de choses, même à l'entraînement, ben, ces espaces-là, en fait, ils nous permettent de sortir un petit peu de tout ce qui est prévisible, et c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt et la question, est-ce que c'est finissable ? En fait, finalement, ce n'est pas forcément la plus importante. Ce qui est important de se dire, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me permet d'y arriver. Et on sait, la Terminorum, elle a permis de faire vibrer, elle fait vibrer tous les ans 40 individus, et je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, et un des moyens de vibrer aussi, c'est parfois juste de lire un bouquin. Donc j'espère aussi que ça donnera envie tout ça, de lire les aventures de ces coureurs. C'est vraiment pas un ego trip, hein, ce bouquin, mais c'est des aventures d'individus ordinaires qui ont juste eu un rêve et qui ont une quête, on va dire, à assouvir.
Ok, bah alors vous savez tous quoi lire cet été, La quête dans les coulisses de la Chartreuse Terminorum, écrit par Simon Lancelevé aux éditions De Bouec Supérieur. Merci Simon pour l'entretien, c'était vraiment hyper intéressant et passionnant. Et en tout cas, tu m'as donné envie d'aller voir un peu plus près cette course. Peut-être que j'irai dans la Chartreuse regarder tout ça un de ces jours.
Eh bien écoute, avec plaisir, n'hésite pas à me le dire et puis je te guiderai jusqu'au rocher du départ après, ça sera à toi de vivre ta propre aventure et de l'écrire.
Ok. Bon, merci beaucoup, Simon.
Ciao. Merci à toi. Ciao.
Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Nous terminons tout de suite en musique avec une chanson choisie par Simon Lancelevé, avec une chanson de Jacques Brel, La Quête.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. L'inaccessible étoile.